Ce podcast présentera un aperçu rapide des modes d'écriture dans l'Égypte ancienne, à savoir la forme alphabétique d'écriture et l'imagerie picturale et métaphysique des symboles, des textes, ainsi que les aspects culturels du langage alphabétique égyptien. Ce podcast comprend 5 sujets. Premier sujet, le langage de la mère divine. Plus on étudie les différentes langues et dialectes du monde, plus il devient clair qu'il existait à l'origine un langage qui se divisa en des langues variées. La Bible et les auteurs de l'Antiquité confirment l'existence d'un tel langage. À cause d'un orgueil mal placé et des préjugés des milieux universitaires occidentaux, ainsi que des fanatismes religieux, judaïsme, christianisme et islam, l'origine de cette langue mère a été ignorée. Les preuves confirment que l'Égypte antique est l'unique source de ce langage universel. Sur ce sujet, Platon admet le rôle de l'Égypte dans ses dialogues, Philebe 18b-c-d. Il écrit ce qui suit. Socrate. On remarqua d'abord que la voix était infinie, soit que cette découverte vienne d'un dieu ou de quelque homme divin, comme on le raconte en Égypte d'un certain Teus, que le premier aperçut dans cet infini les voyelles, comme étant non pas une, mais plusieurs. Et puis, d'autres lettres qui, sans être des voyelles, ont pourtant un certain son. Et il reconnut qu'elles avaient pareillement un nombre déterminé. Ensuite, il distingua une troisième espèce de lettres que nous appelons aujourd'hui muettes. Après ces observations, il sépara une à une les lettres muettes et privées de son. Ensuite, il en fit autant par rapport aux voyelles et par rapport aux moyennes. Jusqu'à ce qu'en ayant saisi le nombre, il leur donna à toutes et à chacune le nom d'élément. De plus, voyant qu'aucun de nous ne pourrait apprendre aucune de ces lettres toute seule, et sans les apprendre toutes, il en imagina le lien comme une unité. Et se représentant tout cela comme ne faisant qu'un tout, il donna à ce tout le nom de grammaire, comme n'étant aussi qu'un seul art. La référence faite à Teut dans ce passage parle du même Teut mentionné dans le Phèdre, où il dit explicitement qu'il s'agissait d'un éther, c'est-à-dire un dieu, de l'ancienne Égypte. Il disait ceci. Et celui-là même auquel est consacré l'oiseau que l'on nomme Ibis, ce qui exclut tout doute au sujet de son identité. Il est clair que ce récit est basé sur une véritable tradition égyptienne, car le Teouti, ou Thot, à tête d'Ibis, est un éther égyptien, c'est-à-dire un dieu. Platon, dans Philebe 18b-c-ed, nous dit, avec son style abscon, ce qui suit. Premièrement, l'Égyptien Teut, ou Thot, ou Teouti, fut le premier à observer l'infinité du son qui était divisé en 3 catégories distinctes, les vibrations cohérentes, le pitch, les vibrations incohérentes, le bruit, et le silence, absence de son. Deuxièmement, Teut ou Thot ou Teouti isola chaque élément de son dans chacune de ces catégories jusqu'à ce qu'il sût leur nombre. Troisièmement, Teut ou Thot ou Teouti est celui qui a découvert le concept de lettre. Chaque lettre est une image de son propre son, musique visuelle, indicatrice de l'unité entre le discours et le texte, c'est-à-dire entre le son et la forme. Quatrièmement, chaque lettre est une unité originelle issue de ses caractéristiques vibratoires uniques. Deuxième sujet, la forme alphabétique de l'écriture. Il est évident que Platon, dans Philebe 18b-c-d, ne faisait pas référence aux formes d'expression graphique, c'est-à-dire les hiéroglyphes, mais plutôt à l'expression des différentes lettres individuelles, chacune avec sa valeur sonore particulière. D'autres auteurs classiques ont également déclaré que l'Égypte était la source originelle des alphabets. La citation suivante, tirée du livre d'Isaac Taylor, « The History of the Alphabets », volume 1, page 83, distingue les faits de la fiction. Elle dit ce qui suit. L'Ancien Monde, qui attribue à la Phénicie la gloire d'avoir inventé les lettres, déclara aussi, mais de façon plus circonspecte, que la connaissance de l'art de l'écriture des Phéniciens provenait à l'origine de l'Égypte et qu'ils la diffusèrent par la suite en Grèce. Eusèbe conserva un passage des écrits épurés du soi-disant historien tyrien Sanconiaton, duquel nous déduisons que les Phéniciens ne prétendirent pas être les inventeurs de l'art de l'écriture, mais qu'ils l'obtinrent de l'Égypte. Platon, Diodore, Sicules, Plutarque, Aulus, Gellius et Tacite confirment tous cette affirmation. Par conséquent, cela démontre que l'opinion selon laquelle la véritable origine des lettres doit être recherchée en Égypte était extrêmement répandue dans l'Ancien Monde. Il suffit de citer les paroles de Tacite qui dit « Primi per figures animalium aegypti sensus mentis et fingebant, ea antiquissima monimenta memoriae humanae impressa saxis cernutur, et literarum semet inventores peribent. Inde phoenicas, quia mari prae polibent, intulisse craesia, Chlorinque adeptos, tanquam repérirint, cae accepteren. Tacite, Annales, 9, 14. La plupart des spécialistes occidentaux affirment explicitement et implicitement que l'alphabet de l'Égypte antique et sa langue est le plus ancien du monde. Dans son livre « The Literature of the Ancient Egyptians », pages 34 et 35, l'égyptologue allemand Adolf Herrmann le reconnaît. Il dit ce qui suit. Seuls les Égyptiens étaient voués à adopter une méthode remarquable, faisant suite à la plus haute forme d'écriture qu'ils avaient atteinte, l'alphabet. L'égyptologue britannique W. M. Flinders Petrie, dans son livre « The Formation of the Alphabets », page 3, concluait comme suit. Depuis le début des temps préhistoriques, un système cursif fait de signes linéaires d'une grande diversité et de nuances était certainement en usage en Égypte. Petrie a rassemblé et compilé des lettres-formes alphabétiques de très nombreuses périodes différentes. Les plus anciennes appartiennent à l'époque préhistorique de l'Égypte, probablement avant 7000 ans avant notre ère, et perdurent jusqu'aux époques grecques et romaines. Il a aussi réuni, avec l'aide de plusieurs spécialistes indépendants, des lettres-formes alphabétiques d'aspect similaire de 25 lieux différents en Asie mineure, Grèce, Italie, Espagne et d'autres endroits à travers l'Europe. Elles sont toutes beaucoup plus récentes que celles de l'ancienne Égypte. La compilation de ces signes alphabétiques par Petrie indique que 1. Toutes les lettres-formes alphabétiques existaient dans l'Égypte antique depuis le début des périodes prédynastiques, il y a plus de 7000 ans, avant tout autre endroit dans le monde. 2. Toutes les lettres-formes alphabétiques sont clairement visibles dans la soi-disant écriture hiératique égyptienne, la plus ancienne qui ait été récupérée et qui date de plus de 5000 ans. 3. Les mêmes lettres-formes de l'Égypte antique furent adoptées plus tard et divulguées à travers le monde par d'autres personnes. Troisième sujet, les modes d'écriture illustrés et alphabétiques. On remarquera que ni Platon, dans Philèbe, 18 B, C, D, ni aucun auteur classique, Clément d'Alexandrie compris, dans Stromate, livre 5, chapitre 4, n'ont indiqué que le mode d'écriture alphabétique égyptien était une forme cursive ou dégénérée des hiéroglyphes de l'ancienne Égypte. certains spécialistes firent valoir, sans vergogne, l'écriture de Clément d'Alexandrie pour insister sur le fait que des hiéroglyphes aient né une écriture plus cursive connue comme hiératique, puis que de celle-ci surgit de nouveau un mode d'écriture très rapide qui est parfois appelé encorial ou démotique. Toutefois, de nombreux spécialistes rationnels reconnaissent que les écritures illustrées sont une série d'images qui véhiculent des idées conceptuelles et non des sons individuels, comme l'indique l'égyptologue britannique W. M. Flinders Petrie dans son livre « The Formation of the Alphabets », page 6, et qui dit ce qui suit. La question est de savoir si les signes alphabétiques dérivèrent des hiéroglyphes dont la forme est plus illustrée, ou s'il s'agit d'un système indépendant qui fut si peu étudié par les écrivains en la matière que la question fut réglée plus d'une fois sans tenir compte de tous les aspects en jeu. Il existait plusieurs styles d'écriture, formel, cursif, semi-formel, semi-cursif, dans l'Égypte antique. Certains étaient extrêmement stylisés ou ornés, ornementés. D'autres étaient simples et clairs. La direction de l'écriture variait d'horizontale, de la droite vers la gauche, à verticale, du bas vers le haut, ou vice-versa. Dans certains cas, ils utilisaient une combinaison entre l'horizontale et la verticale pour le même mot et ou pour une même phrase. Le sujet de chaque document déterminait le style d'écriture utilisé. Ces manières d'écriture produisaient différentes formes de lettres à des moments variés. Pour un regard étranger ou non habitué, des styles différents peuvent paraître comme des alphabets distincts, mais des gens de la même culture lisent ces différentes écritures comme une seule langue. En prenant pour acquis certaines affirmations qui sont contraires aux faits, il a été dit que la forme d'écriture copte fut ainsi élaborée et qu'elle comprenait les lettres de l'alphabet grec ainsi que 6 caractères supplémentaires, dérivés de l'écriture démotique de l'Ancienne Égypte, qui permettait de prononcer des sons spécifiques de la langue d'Égypte. La soi-disant écriture copte ou grecque est en fait un mode d'écriture cursive de l'Ancienne Égypte. C'était l'une des nombreuses formes d'écrit régionales et reconnues à cette époque. Ce furent donc les Grecs qui l'adoptèrent quand ils vinrent en Égypte comme mercenaires ou à des fins d'études et non l'inverse. Au XVIIe siècle, le père Athanase Kircher, à travers ses importants travaux d'analyse, reconnut le fait que l'écriture grecque était originaire de l'Égypte antique. Pour cela, il fut durement ridiculisé par ses collègues européens. Quatrième sujet, les symboles, écriture illustrée et métaphysique. Le système illustré des Égyptiens anciens est communément appelé hiéroglyphe. Il est constitué d'un grand nombre de symboles graphiques. Le terme hiéroglyphe signifie écriture sainte, hieros égale saint, glyphéine, écrit. L'écriture hiéroglyphique fut utilisée dans les temples égyptiens jusqu'à l'an 400 de notre ère. Tous les signes des hiéroglyphes représentent l'environnement naturel des Égyptiens. Par conséquent, leur origine est égyptienne, elle ne fut pas importée ou influencée par d'autres cultures. Chaque symbole graphique vaut bien un millier de mots. Il représente une fonction ou un principe à tous les niveaux simultanément, de son expression matérielle la plus simple et évidente à la plus abstraite et métaphysique. Ce langage symbolique est une véritable mine d'or de données physiques, physiologiques, psychologiques et spirituelles, telles que celles concernant le symbolisme du chien, dont l'analyse a été faite antérieurement dans cet ouvrage. Le concept symbolique et métaphorique des hiéroglyphes fut unanimement reconnu par tous les auteurs anciens ayant écrit sur ce thème, à savoir Plutarque, Diodore, Clément, etc. La meilleure description nous vient de Plotin, qui écrivit dans son livre Les Énéades, volume 5-6, ce qui suit. Les sages de l'Égypte me paraissent avoir fait preuve d'une science consommée ou d'un merveilleux instinct quand, pour nous révéler leur sagesse, ils n'eurent point recours aux lettres qui expriment des mots et des propositions, qui représentent des sons et des énoncés, mais qu'ils figurèrent les objets par des hiéroglyphes et désignèrent symboliquement chacun d'eux par un emblème particulier dans leur mystère. Ainsi, chaque hiéroglyphe constituait une espèce de science ou de sagesse et mettait la chose sous les yeux d'une manière synthétique, sans conception discursive ni analyse. Ensuite, cette notion synthétique était reproduite par d'autres signes qui la développaient, l'exprimaient discursivement, dénonçaient les causes pour lesquelles les choses sont ainsi faites, quand leur belle disposition excite l'admiration. Aussi, admirera-t-on la sagesse des Égyptiens si l'on considère comment, ne possédant pas les causes des essences, elle a pu disposer, cependant, les choses de manière à ce qu'elles soient conformes aux causes des essences. Durant la 12e dynastie, 2000-1780 avant notre ère, environ 700 signes étaient utilisés plus ou moins constamment. Il existe un nombre quasiment illimité de ces symboles naturels. Étant donné que le déchiffrage des hiéroglyphes métaphysiques de l'ancienne Égypte est au-delà des capacités des spécialistes occidentaux, ils l'ont considéré comme étant une forme d'écriture primitive. Les égyptologues officiels choisirent de façon arbitraire 24 symboles parmi des centaines de hiéroglyphes et considérèrent qu'ils formaient un alphabet. Puis, ils attribuèrent diverses fonctions aux centaines d'autres symboles en les nommant syllabiques, déterminantes, etc. Ils établirent les règles au fur et à mesure et le résultat final fut un chaos. On peut facilement comprendre les difficultés qu'ont les universitaires à comprendre les textes métaphysiques hiéroglyphiques de l'Égypte antique. Cinquième sujet, le langage érudit. Les anciens textes égyptiens reflètent le haut niveau d'érudition de la langue et des gens. L'égyptologue allemand Adolf Herrmann nous dit dans son livre « The Literature of the Ancient Egyptians » ce qui suit. Aussi loin que nous puissions remonter dans le temps, la langue égyptienne indique qu'elle a été choyée. Elle est riche en métaphores et en figures de style. Il s'agit d'une langue savante, qui compose et réfléchit pour le plus grand bénéfice de la personne qui écrit. L'égyptologue britannique Alan Gardiner écrit dans son livre « Egyptian Grammar », page 4, ce qui suit. Rien de plus marquant dans la langue égyptienne que sa concision. Les expressions et les phrases sont brèves et expriment l'essentiel. Les constructions alambiquées et les phrases longues sont rares, bien qu'on les trouve dans des documents juridiques. Le vocabulaire était très riche. La clarté de l'égyptien est grandement favorisée par un ordre strict des mots. La diversité des thèmes observés dans les écrits de l'ancienne Égypte est grande et comprend 1. Des textes religieux et funéraires. 2. Des registres professionnels et juridiques. 3. De la littérature et des documents scientifiques, c'est-à-dire des papyrus traitant de mathématiques. 4. Des observations astronomiques. 5. Des travaux médicaux. 6. De la littérature spirituelle. 7. Des méditations. 8. Des lettres. 9. De la poésie, des musiques et des hymnes. 10. De la magie. 11. Des contes égyptiens. 12. Des voyages. Du fait que les Égyptiens anciens ne faisaient pas de distinction entre le sacré et le profane, l'interprétation des textes dépend en grande partie de l'approche des académiques impliqués dans ce travail. Les spécialistes occidentaux, méconnaissant cet aspect, aboutiront et ont abouti à des interprétations biaisées et inutiles, alors que ceux qui ont vraiment étudié la question feront du même texte une interprétation complètement différente révélant le savoir et la sagesse des Égyptiens. Les Égyptiens utilisaient l'écrit dans tous les aspects de leur vie, en fabriquant du matériel d'écriture excellent et en produisant des livres. Les Égyptiens anciens fabriquaient des livres en collant les feuilles de papyrus entre elles, et il existe de magnifiques manuscrits mesurant 20 à 40 mètres. Ils employaient des stylos-plumes et de l'encre indélébile, puis écrivaient sur des tablettes en bois. Ces matériels étaient abondants et permettaient aux scribes d'écrire des manuscrits à l'aide de signes précis, clairs, élégants et arrondis. L'emploi d'un stylo-plume, au lieu d'un outil pointu, permettait de tracer des lettres plus rondes. Merci d'avoir écouté ce podcast, extrait du livre « La culture de l'Égypte ancienne révélée », deuxième édition, de Mustapha Gadala. Pour plus d'informations, vous pouvez également consulter d'autres livres de Mustapha Gadala, dont « Le langage métaphysique des hiéroglyphes égyptiens », ainsi que « The Ancient Egyptian Universal Writing Modes ».